RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules, c'est avec vous, c'est sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, c'est tous les jours en direct, bien évidemment, et vous prenez la parole au 32-16 aujourd'hui avec la prof de français Fatima Hidbouma, le consultant juridique Antoine Diers, et l'agriculteur de Saône-et-Loire, Didier Giraud. C'est la deuxième heure des grandes gueules, on va y parler de politique avec ce que dit Marine Le Pen. Elle commence à faire des scénarios, si bien sûr la justice la laisse aller à l'élection présidentielle.
Il y en a un autre de scénario.
Voilà, le scénario pour que je sois la mieux élue possible, ce serait que je me retrouve face à un candidat du Bloc central et pas face à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ce serait pour moi le meilleur des scénarios. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est plausible? Est-ce qu'elle a raison? On en parlera à 11h-20. Est-ce qu'on doit interdire la pub sur les produits transformés? C'est-à-dire ce qui fait 60% des rayons des supermarchés. C'est ce qui crée de l'obésité, c'est ce qui crée du diabète. En Grande-Bretagne, on a interdit la pub de 6h du matin à midi sur tous ces produits barquettes, salés, sucrés. On n'en veut plus. Est-ce qu'on doit faire la même chose en France? 32-16 là aussi pour le dire aux grandes gueules. D'abord, on va s'intéresser à ce qui s'est passé à Roubaix. Ça s'est passé avant-hier. C'est un adolescent de 15 ans qui a été interpellé parce qu'il a menacé son prof avec un couteau. Alors, je suis sûr qu'au moment où je le dis, certains d'entre vous, devant leur écran ou dans la voiture, disent « Ah ouais, encore ».
Classique.
C'est tristement, malheureusement et dangereusement banal. Que s'est-il passé? C'est le prof de mathématiques. En fait, l'élève a Roubaix scolarisé au collège Sévigné. Il est arrivé en retard, où il y a eu une petite discussion à propos de son retard. Le prof lui a dit « Va chercher un mot d'excuse auprès de la vie scolaire » et il lui a confisqué son cahier. Lorsqu'il avait confisqué le cahier, l'élève a quitté la classe, il a filé à la cantine, il est revenu avec un couteau, il a menacé son enseignant, il lui a couru après. Fort heureusement, il a ensuite été désarmé par l'équipe scolaire, par un surveillant, et la police l'a placé en garde à vue. Enfin, ce qui est fou, c'est que ce gamin n'est pas à 15 ans, c'est qu'on peut être impulsif, on peut être colérique, on n'a pas forcément de raisonnement, mais se dit, je vais aller le planter. C'est ça qui est dingue et qui nous interpelle, Didier Giraud.
Ce que j'aimerais bien connaître, c'est un peu le pédigré du jeune, quoi.
Dans quel milieu il évolue?
Je crois pas qu'un gamin insensé qui grandit dans une famille aimante, entourée, il ait cette impulsion-là, même si tout est possible. Et je crois, au final, que la valeur de l'exemple crée des vocations, quoi. Ces affaires de couteaux de gamins de plus en plus jeunes avec des couteaux qui se font justice eux-mêmes, qui cherchent à avoir une emprise sur les adultes, à force de le répéter en boucle à longueur de journaux télévisés et radiophoniques, je pense que ça crée des vocations. Et dans la gestion de la frustration, si elle est mal encadrée, le gamin il se dit plutôt que d'aller à la vie scolaire, je vais aller à la cantine, je vais ramener un couteau. Enfin, je sais même pas si ce couteau-là avait quelque chose de dangereux, parce que normalement les couteaux qu'il y a à la cantine, ils sont pas censés être dangereux. Mais je vois pas quel cheminement il peut y avoir dans la tête d'un gosse, si ce n'est que la valeur de l'exemple, quoi. Tu vois, c'est. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête d'en parler de ça, quoi. Faut qu'on arrête d'en parler de ces couteaux. Parce que
si on arrête d'en parler, les gamins prendront plus de couteaux.
Franchement, moi,
je suis pas sûr. Moi, je pense.
Si tu m'expliques que c'est un gamin qui est plus sensé, qui vit dans une famille aimante, moi, je vois que cette explication-là.
Dans les dernières histoires, malheureusement dramatiques, il y avait des ados qui étaient dans des cercles familiaux qui n'avaient pas de problème.
Bien sûr. Hein.
Tu vois.
Donc du coup, c'est là où la théorie de l'exemple pour moi prend une valeur.
Que ce soit le fait de parler de parler des couteaux. Je sais pas ce qu'il regardait sur Internet, je sais pas ce qu'il regardait sur son portable.
C'est un tout. Quand je dis parler des couteaux, c'est pas que nous.
Antoine Diers.
Tu parles de crainte d'exemple, que ça se reproduise. Oui, c'est ce qui se passe, mais parce qu'il n'y a pas de sanction. J'ai dit ici il y a quelques mois, amener un couteau ou menacer avec un couteau dans une école, ça doit ruiner ta vie. Formule volontairement provocante, mais ça doit avoir des conséquences lourdes.
J'espère que la garde à vue, ça lui aura quand même.
Il
va rien se passer. Les mots de Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, sur le sujet, il dit sur cette affaire un geste inacceptable qui ne restera pas sans réponse. Mais sauf qu'en réalité, ça va rester sans réponse. Il ne va rien se passer. Alors, à chaque fois, moi, on me dit, Antoine, t'exagères quand je dis qu'il faudrait des portiques. Antoine, t'exagères quand je dis qu'il faudrait un responsable de la sécurité au sein de chaque établissement. Ben oui, mais en fait, on y est.
Ouais, mais là, là ça passe à travers, Antoine.
Parce que
c'est alors, à la cantine. Sur ce cas-là, ça passe à travers.
Alors, je vais te dire que, évidemment, tu n'évites pas tout. Mais si tu promets une sanction extrêmement ferme, tu menaces un enseignant avec un couteau circonstance aggravante, tu vas en prison. T'as beau avoir 15 ans, tu vas faire 2 ans de prison. Voilà. Ce sera une prison spécifique, évidemment, pour les jeunes. Mais menaces avec un couteau, on a le temps d'appeler le responsable sécurité qui arrivera. Et tu sais que tu vas pas pouvoir faire le cahier de longtemps parce qu'il y a un gros balèze qui va arriver et qui va t'en mettre une bonne. Voilà. Et ben, tant qu'on n'aura pas de réaction pour que ces jeunes arrêtent, ils continueront. Et malgré les mots du ministre, ça ne restera pas sans réponse. Fatih, ça ne passera rien.
À chaque fois, vous vous rendez compte, à chaque fois, on compte, soit on compte les morts, soit on compte les blessés. Je viens dans l'émission, on va commenter, on pourrait presque mettre le replay. Je vais essayer de ne pas me répéter parce qu'on a parlé de ça. Je vais parler de la façon dont on le traite. Vous voyez, quand on dit elle confisque son cahier et l'enfant la menace avec un couteau. Ça me fait penser, il y a quelques années, il y a 15 ans environ, quand on parlait des féminicides, c'était souvent comme ça les titres. Le repas est froid, il tue sa femme. Voyez bien qu'il n'a pas tué sa femme parce que le repas est froid. Il a tué sa femme parce que c'est un homme violent. C'est-à-dire que quand un enfant prend un couteau pour menacer son professeur, ce n'est pas parce qu'elle lui a confisqué son cahier, c'est qu'il y a un problème derrière. Et le cahier, c'est un prétexte. Vous voyez, on parle de prétexte. Quand une violence est là, c'est comme une, vous voyez, c'est comme un sac de poudre qui est là et qui est prêt. Et puis la moindre
étincelle.
Le problème, c'est pas l'étincelle. C'est pas ce qui a provoqué l'étincelle. Le problème, c'est que finalement, est-ce qu'on est capable de repérer ce sac de poudre pour être dans l'anticipation et faire des choses? Moi, finalement, on a parlé de la pédocriminalité avant. Là, on parle de ça. Les deux se rejoignent sur une chose, c'est la question de la sécurité et la question du pas de vague. Moi, je suis pas pour ne pas en parler, je suis pour en parler. Après, comment on en parle, c'est la question est là. Si je fais mon Hollande, il avait gagné en disant moi président et tout ça. Moi je dirais moi ministre, j'ai pas envie d'être ministre, mais ce que j'attends d'un ministre comme maire et comme prof, comme professeur, non jamais de la vie, comme professeur, et c'est pour ça que je suis libre de parler justement, parce que je fais pas campagne. Comme professeur, comme maire, ce que j'attends, c'est qu'un ministre dise moi comme ministre, je vous promets le tsunami. C'est fini le pas de vague. Sur la pédocriminalité, des doigts qui ont pénétré un enfant, parce que c'est ça, hein, des doigts qui ont pénétré un enfant, n'effleureront plus jamais ni la peau, ni la porte d'un lieu où il y a un enfant à l'intérieur. C'est ça que j'attends. On est radical.
On peut le couper.
De la même manière, non, parce qu'on peut pas couper. Des doigts ou des sexes. On ne peut pas. On est en France. Donc, au moins, on les éloigne. Voilà. Donc, et de la même manière, sur la sécurité, quand vous mettez votre enfant en sécurité, il est quand il est dans une école, il est pas sur un lieu de guerre, parce que là c'est le professeur que l'enfant a failli blesser. Mais s'il prend un couteau pour attaquer l'adulte, s'il n'y a pas cette limite là, qu'est-ce qu'il fait à ses camarades?
C'est ça.
Vous voyez.
Souviens-toi ce qui s'était passé en Loire-Atlantique où ce jeune avait mis 40 coups de couteau à une de ses camarades. De
qu'est-ce qui s'est passé dans notre société, Fatima, pour que ces profils-là, on les repère plus? Parce que moi, quand j'étais à l'école, ces profils-là, ils existaient. Ils étaient repérés, ils étaient fichés, ils étaient surveillés, et tout le monde les avait à l'œil, ces profils-là. Parce qu'ils existaient déjà.
Il y a plein de sujets, il y a de plus en plus. Là, on a parlé du mal-être des jeunes avec une augmentation, je crois, d'un truc énorme d'automutilation, notamment chez les filles. Donc une violence qui est tournée vers elle-même aussi.
Le mal-être, il a toujours existé.
Non, mais là, il a augmenté depuis le Covid, il y a une augmentation folle de tentatives de suicide. Et même chez les très jeunes, chez les moins de 11 ans, on n'avait jamais eu ça.
Il y a une nouvelle culture de la violence. C'est pas des enfants qui sont dans un mal-être,
ça,
pour moi.
Pas tous.
Mais t'as des enfants qui ont baigné dans une culture violente, qui n'ont pas eu les ressorts psychologiques fondamentaux du fait qu'on n'agresse pas un prof, tu vois. On voudrait pas que ça arrive à un des siens. Et ils n'ont pas la notion de bien et de mal. Ils sont dans une espèce de truc brutal, tribal.
Parce que si tu dis ça, le problème, si tu dis dis, par exemple, ils n'ont pas la notion de bien et de mal. C'est, tu es dans la déresponsabilisation. C'est comme quand on dit quelqu'un est fou. Et donc, du coup, c'est pas. Ben moi, non, je te dis, mais... un enfant qui.
Non, mais l'éducation, non, c'est un apprentissage. Ils ont souviens-toi, pas eu cet apprentissage.
Je vous rassure, les enfants savent très bien qu'il ne faut pas attaquer. Ils attaquent, mais ils savent très bien qu'il ne faut pas attaquer.
Fatima, on a passé un cap, on a passé un
stade.
Souviens-toi, moi, quand j'étais ado au collège, et donc là, on était, si tu veux, dans les années, fin des années 70. On répondait. Tu vois, on savait que même en répondant, on savait ce qu'on risquait. Et je veux dire, on répondait, tu disais, tu répondais, tu dis, non, monsieur, quand même là. T'entendais là-haut, et puis tu disais, je suis
Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, je suis mort. Tu vois. Et dans ces cas-là, on savait que la sanction allait tomber immédiatement. Alors, de temps en temps, t'avais un prof qui t'arrêtait, où il disait, Alain, s'il vous plaît, vous ne me parlez pas sur ce ton. Et donc, tu t'arrêtais tout de suite. Et il y avait une explication devant toute la classe. On disait, vous savez quoi? Bougez pas. Alors, vous savez où est le bureau du proviseur? Et tu descendais chez le proviseur. Là, mais à aucun moment, et pourtant on avait des classes avec des turbulents. Moi, je me souviens qu'il y a des fortes têtes. Certains qui ont même été exclus, si tu veux. Mais à aucun moment, dans le collège, j'ai un type à qui il serait venu à l'idée de dire je vais à la cantoche ou demain je viens avec un cran d'arrêt contre le prof.
Tu parles de
c'est ça qui a changé.
Tu parles de plusieurs choses, mais juste je vais juste sur la question de l'autorité, parce que c'est pas simplement les enfants qui respectent moins le professeur. Il y a les parents aussi, il y a les médias aussi. Oui. Ça veut dire on a par rapport, et c'est pas simplement le professeur, c'est le médecin aussi, des médecins qui se font frapper, dire par rapport à l'autorité, à celui qui l'incarne de l'autorité, les gens se permettent de piétiner et de penser d'être pulsionnel aussi.
Il y a de plus en plus de gens.
On a de plus en plus ça. Quand tu vas chez le médecin, maintenant il y a des affiches pour dire tout acte violent sera. S'ils ont été obligés de mettre l'affiche, c'est que c'est pas arrivé une fois ou deux fois. Donc effectivement, l'école c'est le miroir grossissant à peine maintenant. C'est le miroir de la société. Et effectivement, moi si je parle très vivement à un élève, je vais avoir un mot des parents.
Oui, mais parce que l'autorité que décrit Alain, c'est aussi une lente régression. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à Jean Valjean qui allait au bagne pour un chandelier, on est aux arrière petits-fils de tout ça. Et du coup, l'autorité, ça a été une lente dégringolade. Et on est arrivé à un point où un gamin de 13 ans, il a une réflexion qui ne lui plaît pas, il va à la cantine chercher un couteau pour se faire justice, quoi. Oui, tu vois, ça part peut-être d'une ultra-sévérité de la société à une ultra-pas de répression. Alors, quoi.
J'ai même eu des parents qui se sont battus. Nous, on a eu des parents qui se sont battus. Il y avait une réunion parents-prof et des parents, leurs enfants avaient un conflit et les parents qui se sont rencontrés dans le couloir se sont battus dans le couloir. Donc là, cette question de la violence-là, elle dépasse. Et de la même manière, Alain, tu dis, toi, t'aurais dit, tu mets l'enfant...
Parce que ça m'est arrivé, tu vois, de répondre une fois comme ça, de manière un peu spontanée à 14-15 ans parce que t'es un peu con. Je peux dire que je l'ai regretté tout de suite et je me souviens pas la fois refait. Quoi.
Même c'est la sanction.
Je peux vous rassurer sur une chose. Quand un enfant manque de respect à un professeur, dans la grande majorité des cas, aujourd'hui encore, tu vas voir ce que tu décris.
Il y a des heures de colle.
Les autres qui
tu prends des heures de colle.
Ah bien sûr, il y a les heures de colle, il y a tout l'arsenal. Tu peux être exclu. Là, c'est en train de revenir.
Avant,
effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on nous a retiré, on nous a désarmé. Symboliquement.
Oui,
ça veut dire que c'est comme tout ce qu'on pouvait avant faire, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Donc maintenant, et après, quand il se passe quelque chose, on va dire, ah ben, les professeurs...
On a Julien, c'est l'histoire de l'autorité, le désarmement et la lente régression que j'ai décrit. C'est l'histoire de l'autorité.
Et c'est pas simplement les professeurs, c'est socialement aussi la place que que vous voulez bien accorder comme parents. Au professeur.
On a Julie, mais justement, qui est institutrice en CM2 et du côté de l'Aube, elle veut intervenir. Bonjour Julie.
Bonjour.
Bonjour Julie. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé à votre collègue là, qui s'est fait poursuivre par le couteau? Comment vous l'expliquez?
Par l'enfant avec un couteau, bien sûr. La métonymie, ça va pas, c'est comme la voiture.
Allez-y.
Alors justement, je souhaitais réagir à ce que vous avez dit, Alain. Parce que vous avez dit, les derniers élèves, enfants, moi je vais dire, parce que moi j'en ai des jeunes, qui ont fait ça, venaient de familles aimantes. Et en fait, je pense que ça fait des années, parce que je suis prof depuis 20 ans maintenant, que ce qu'on appelle la famille, et la famille aimante, ça a beaucoup changé. Ouais. Ma directrice, alors j'exerce plutôt en milieu campagnard, j'ai fait de la ville aussi, de la cité, mais ça fait quelques années maintenant, une dizaine d'années, que je suis plutôt à la campagne, et ma directrice, elle dit on n'est plus dans les familles tuyaux de poêle et canne à pêche. C'est-à-dire, on n'est plus dans les familles où visiblement on était dans le besoin, on avait peut-être un niveau d'éducation plus bas, on avait des caractéristiques qui faisaient que oui, peut-être qu'il y avait des relents de générations précédentes avec des méthodes plus archaïques à la maison, etc. Maintenant, on est dans d'autres types de familles. Que moi, j'aime à dire des familles qui paraissent insérées socialement,
ouais,
mais qui ne le sont pas.
Et ça génère de la violence chez l'enfant, alors,
c'est
ça?
Bien sûr, mais moi, comment vous dire, je disais à vos collègues que quand les députés parlaient d'un élève sur cinq qui subissait de la violence physique, il y a un élève sur cinq qui subissait, un enfant, pardon, sur cinq qui subissait de la violence sexuelle, et ben on l'a même à la campagne.
Ouais, bien sûr.
Et les gens qui pensent que c'est que surtout les gens de la campagne d'ailleurs souvent, qui pensent que c'est que dans les cités, c'est pas vrai, c'est partout. Sauf que c'est un autre type de violence. On a des couples de cadres sup où ça se fait des rails de coke tous les week-ends, ça s'occupe pas des gosses, ça pense plus à monter des clubs échangistes en campagne. C'est vraiment ça.
S'occuper de l'éducation des enfants, quoi, en fait, et de les maintenir dans un cadre, voilà. C'est ça.
Non, il n'y a pas du tout. Ils ont des enfants. Bah, je vais pas être méchante, mais ils ont des enfants parce que ça se fait d'avoir des enfants. C'est plutôt la dernière génération qui se pose la question « Est-ce que je veux des enfants ? Qu'est-ce que je vais leur apporter ?» Mais on est plus dans des gens qui ont eu des enfants parce que c'est dans la logique de la vie. Et après, en fait, ils ont voulu continuer à avoir leur vie d'adulte,
ouais, qui ne soit pas parasitée par l'enfant, quoi, en fait, c'est ça.
C'est ça, vraiment, c'est vraiment ça.
Ce que vous décrivez, c'est aussi l'égocentrisme de la société.
Ouais.
Qui a évolué.
Julie, je vous remercie de ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous, institutrice de CM2. Merci à tous d'avoir discuté.
Professeur des écoles, maintenant.
De ce qui s'est passé là à Roubaix. Dans un instant, on va revenir à la vie quotidienne aussi avec les courses dans le supermarché. Avec, vous savez, ces associations qui regardent attentivement ce que nous mangeons, qui alertent sur la malbouffe et qui disent aujourd'hui il faut arrêter de faire de la publicité pour tous les produits transformés. En Grande-Bretagne, on a même arrêté la publicité de 6h à midi. Est-ce qu'ils ont raison? 32-16 pour venir en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Il est 10h20, vous êtes sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
C'est avec Reste ici Anaïs, parce que justement, si tu vas être au cœur de la polémique, tu vas être au cœur de notre prochaine discussion. Mais si, allez, justement, on va parler des produits transformés.
Fais-nous la liste d'ingrédients.
Je mange.
Voilà.
Ah, les mots,
ce sont.
J'ai un RTT.
Ce sont des associations que vous connaissez maintenant. Elles s'appellent Yuka, Foodwatch, France Association Santé. Elles écrivent à l'État. Et qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent un encadrement de la publicité autour des produits transformés. Alors, vous les voyez autour de moi, pour ceux qui sont devant RMC Story. Ce sont les chips, ce sont les gâteaux, ce sont les chocolats. Ce sont les produits prêts à cuisiner ou à réchauffer. Ce qu'a acheté Anaïs, là, à la publicité, elle a acheté
un
paquet de chips.
On vient de la gauler,
elle est là. Et Didier lui dit, non, mais mange pas ça. C'est exactement ça. T'as succombé, ma chère Anaïs. Ouais, exactement. T'as reparti avec ton paquet de chips.
Allez, au revoir.
En fait, ce que disent ces associations, ce sont ces produits qui aujourd'hui représentent 60% de l'offre alimentaire en France, 50% des calories consommées par les enfants. Ah ouais. Ils disent, voilà, il faut arrêter avec ces produits transformés. Alors, on peut pas arrêter de les vendre, on peut pas les interdire. Mais ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on soit mieux informé et que ce soit mieux encadré. Ce sont les produits ultra transformés. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est mauvais pour notre santé? Est-ce qu'il faut arrêter de faire de la pub pour ces produits? Moi, je vais vous demander, est-ce que vous allez arrêter de les acheter? 32-16 pour le dire aux grandes gueules, monsieur Didier Giraud.
Écoute, je pense que tu dis on peut pas arrêter. Je pense que ce truc-là est très simple. Très, très simple. Les produits ultra transformés, c'est en gros qui contiennent des ingrédients qu'il n'y a pas dans votre cuisine. Le truc bidule, l'aspartame à la place du sucre, enfin tous ces ingrédients qu'il n'y a pas dans votre cuisine. Il y a deux solutions. Soit c'est un danger pour la société et pour ta santé, auquel cas on interdit aux industriels de mettre ces produits qui sont dangereux pour la société dedans. Enfin, je suis désolé, on vend pas aujourd'hui, je sais pas moi, du pâté avec du cyanure. Ça n'existe pas. Ouais. Donc, à un moment donné, soit la science prouve que ces produits sont dangereux pour la société, et il y a une liste de produits qui est interdite dans la composition des produits des industriels, et on serre le bec aux industriels pour leur retirer ces produits-là de la consommation.
C'est une question de quantité. L'huile d'olive, la meilleure huile d'olive du monde.
Non, mais c'est pas ça qu'on parle. On parle des ingrédients qui ne sont pas dans ta cuisine. Non, mais
si t'en bois des litres, tu vas pas être en bonne santé. Hein. Pourtant, si t'en bois un petit peu sur ta salade, c'est très bon. Il y a des oméga, je sais pas quoi.
C'est donc, pas du tout
je
ça.
Je ne défends absolument pas les produits transformés. En revanche, de dire il faut interdire un truc qui serait pas bon. En fait, si t'en prends une fois de temps en temps par plaisir, allez, un coca de temps en temps, un truc avec du B412 de temps en temps, ben là, il n'y a pas de conséquences pour la santé.
Mais je pense qu'il y a des ingrédients, des ingrédients qui sont dangereux à la santé et qui sont tolérés dans les fabrications. Tu vois, il y a un moment donné, et puis après, derrière ça, moi, je plaide depuis des années, faut qu'on aille sur un vrai étiquetage, quoi. Un vrai étiquetage qui dise, bah, là, contient, tel produit cancérigène, là, provient d'Amérique du Sud. Non, mais à un moment donné, c'est trop facile aujourd'hui de se cacher derrière des recettes d'industriels qui sont inviolables, qui sont secrètes. On met juste un truc illisible à la loupe sur le paquet en disant il y a du machin, il y a du truc, il y a du bidule. Moi, je pense que soit on prouve que c'est dangereux à la société, auquel cas on interdit dans les recettes, soit on arrête de faire chier les gens, quoi.
Mais c'est dans ce que tu dis, la chose qui est vraie et qui nous rend tous fous, c'est l'espèce d'injonction contradictoire. C'est-à-dire, on nous dit c'est dangereux, c'est très dangereux, c'est cancérigène. Et en même temps, on le trouve partout, donc on se dit, bah attendez, c'est pas possible, si c'était si dangereux, ils le vendraient pas. C'est comme s'ils pensaient à notre santé. Et là où on nous trompe beaucoup, c'est que par exemple, je regardais un reportage où ils nous montraient qu'un gâteau, le même gâteau qui a pas changé, pour nous, il a pas changé, c'est la même marque, on se dit, bah moi je l'ai mangé petit, et puis j'ai pas eu de problème de santé. La composition a changé complètement.
Rien à voir.
Et donc ils ont vu que pour les jeunes enfants, ils avaient dans leur corps, finalement, des polluants qu'on n'avait pas, nous, au même âge, et dans un degré de concentration, et c'est entièrement lié à la consommation. Donc, effectivement, c'est une cause de santé.
Est-ce que tu achètes toi pour tes enfants ou pas?
Alors, moi, je suis obligée de faire très attention parce que mon enfant est diabétique de type 1. Ouais. Donc, nous, on est obligés de regarder la composition. Moi, je fais attention parce que de toute façon, j'ai pas un bon métabolisme. J'ai un métabolisme de merde. J'ai un lipodème. Donc, ça veut dire, en gros, que je grossis très vite, même en mangeant peu. Donc, je m'interdis ces rayons. Je suis désolée, je passe pas et je suis obligée de faire
après,
attention.
Après, c'est la liberté du consommateur. On n'est pas obligé de les acheter. Il y a une offre.
Est-ce que tu crois que la pub, c'est une vraie efficacité là-dessus? Crois pas.
Moi, au-delà de mon cas personnel ou de la liberté, il y a l'éducation. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, les enfants, ils sont assaillis. Je pense que les adultes, vous rendez pas compte à quel point Internet est en train de pourrir le cerveau des enfants.
Mais les enfants, ils sont pas sur Internet.
Non, mais attendez. Pour Internet, ce qu'ils voient, les publicités aussi, mais tout ce qu'ils voient. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a quelques semaines, Skibidi Tantafrix, ça n'existait pas. Enfin, voilà. Personne parlait de ça. Là, mes élèves, il y en a plein, ils me parlent. Skibidi, c'est devenu une référence. C'est quoi Skibidi Tantafrix? C'est des espèces de petits, une
de
production
bonbons.
En IA, non, de Fresito et Bananito et des histoires de tromperies. Vous dites, c'est rien. Comment quelque chose est rentré dans la tête d'autant d'enfants aussi vite, c'est comme Seven, on peut en rire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on n'arme pas nos enfants avec un esprit critique...
C'est l'éducation, mais c'est les parents.
Avec
l'esprit
critique.
C'est la responsabilité des parents, Fatima.
Mais il faut que les parents aussi se rendent compte que...
C'est la responsabilité d'achat des parents.
C'est
la responsabilité d'éducation. Quand tu passes le rayon du supermarché avec tes enfants, quand ils disent je veux ça,
non.
Tu dis non.
Non.
Oui. Tu dis non. Et c'est pas de la faute de l'industrie.
Oui, mais
il est là pour vendre. Alors on peut discuter après des additifs et des produits que l'on met dans les ultra transformés. Mais tu dis non, on prend pas. C'est tout.
Je suis d'accord sur le non. Je suis d'accord sur le non, on prend pas. C'est comme pour le téléphone, on dit non à ses enfants. Sauf que on a, ce qui est vrai et ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en 2026, par rapport aux années 2000 et par rapport aux années 90, en face, on a des ingénieurs en manipulation,
sensorielle.
PNL, en manipulation sensorielle, en manipulation du cerveau, qui vont faire exactement le petit système de récompense qui fait que votre enfant, quand il veut regarder Roblox, c'est pas comme quand nous on voulait regarder le Club Dorothée, parce que Dorothée c'était sympathique, mais papa et maman disent non, voilà, c'est le désir, c'est un petit conflit, normal. Mais Roblox, les systèmes de récompense, les petites flammes sur Snap, on est dans autre chose. Ça veut dire qu'effectivement, on a face à nous une vraie machine.
Préserver vos enfants de tout ça.
Développer l'esprit critique.
Antoine, oui, mais vraiment. Moi, tu m'enlèveras pas de l'idée dans les chips. Excuse-moi,
Antoine. J'ai autour de moi des gens de mon âge qui ont fait des enfants et qui, pour qui c'est absolument interdit de manger des chips.
Ben,
jamais ils mangeront de chips. Pour qui il n'y a pas de télé ou alors on choisit le dessin animé, etc. Et en fait, c'est possible. C'est possible. On n'est pas victime de la pub. On n'est pas victime de la société dans laquelle on grandit. Et en même temps, moi, quand je fais mes courses au Leclerc à Dunkerque, je vois effectivement des familles souvent en surpoids avec l'enfant. Et tu veux quoi dans le rayon des gâteaux et tout ? Ça n'est pas possible. C'est juste une discipline personnelle. Voilà. Et enfin, on a le droit de vouloir acheter ça une fois de temps en temps, pour se faire plaisir. Et donc, c'est toujours le truc en France, on a le sentiment qu'il faut tout interdire parce que les gens seraient pas assez grands pour choisir ce qu'il y a bon, ce qu'il y a de bon pour eux-mêmes.
Non mais moi, Antoine, tu te trompes, hein. Il y a là-dedans des principes actifs basés sur de la chimie, de la science, qui te rendent addict, qui t'empêchent de t'arrêter à la moitié du paquet, et qui, enfin, je veux dire, c'est calculé, ça, c'est réfléchi.
Si, là, comme ça, on interdit ce produit-là, je suis d'accord.
Sabrina, les chips, ils ont travaillé pendant 30 ans là-dessus. Hein.
Sabrina,
ils sont au point
sur
là-dessus.
Snap, Roblox, et
qui veut intervenir
Internet,
au 32-16. Bonjour.
Bonjour
Sabrina.
Excitation. Oui, bonjour.
Bienvenue. Alors, est-ce que ça pourrait être efficace de faire moins de pubs pour tous ces produits transformés ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Eh ben, moi, je suis un peu d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. Je suis absolument d'accord qu'il faut arrêter les pubs sur tous ces produits transformés. Mais alors, moi, je suis un parent qui a élevé deux enfants de différentes générations. J'ai une fille qui a 22 ans et mon petit qui a 13 ans. Et je vois que j'ai pu quand même préserver ma fille, mais pas mon fils du tout. Parce que moi, ce qui me perturbe, c'est les pubs indirectes.
Ah oui,
c'est tous ces influenceurs qui font des partenariats dans des restaurants, qui mangent des choses terribles. La grande mode du testicrousti, j'en veux. Je trouve ça horrible, terrible. Alors, moi, je lui laisse pas forcément l'accès ni à la télé, ni à Internet, mais avec les copains, avec... tôt ou tard, il
passe après,
à ces images-là.
Mais donc, vous arrivez à dire non, vous arrivez à résister quand même.
Ah oui, voilà. À la maison, oui. Ben oui. Complètement.
Ben oui,
mais ce que vous dites, Sabrina,
votre enfant de 13 ans, quand il aura 21 ans, non, il en mangera, quoi.
Il fera ça. Il fera ce qu'il veut.
Ce que dit Sabrina, il y a un proverbe qui est très juste, qui dit votre enfant est pas simplement, l'enfant n'est pas simplement l'enfant de ses parents, c'est l'enfant d'une époque. Vous dites bien que Sabrina, elle compare ses deux enfants. C'est la même mère, même système d'éducation, même chose. Mais lorsque, moi je vois bien avec mes élèves, lorsque je dis 6-7, 6-7, 67, ils vont en avoir 10 qui vont dire 6-7 parce que c'est rentré dans leur tête presque malgré eux.
Nous
et pareil,
on ne saisit pas là.
Mais voilà, parce que vous êtes adulte. Mais il y a des choses qui rentrent comme ça dans le cerveau et qui sont en train de pourrir le cerveau des gosses. Est-ce que dit Sabrina, c'est que le parent peut être aussi démuni parce qu'il y a les placements de produits des influenceurs. Et là, on a vraiment le désir triangulaire. Le désir triangulaire, ouais, c'est quoi ? C'est j'aime ma star utilise ça, je désire ce produit. Ça, c'est radical. Pour les enfants.
On a David qui veut intervenir après Sabrina. David, il est cuisinier du côté de l'Eure-et-Loire. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Et justement, vous pouvez lutter contre les produits transformés ou pas ?
C'est ce que j'essaie de faire presque tous les jours. Je donne des cours à des enfants, je fais des ateliers de cuisine.
Ça, c'est génial.
Et donc, je travaille avec Solibio, un jardin solidaire à côté de Vosges, dans le 28. Et. Je suis un petit peu troublant parce que c'est la première fois que je vous ai au téléphone.
Ouais, je vous en prie, dès tout va bien se passer.
Oui.
Vous ne risquez rien.
C'est amical ici.
Mais oui, David, donc vous arrivez à éduquer les enfants et à leur dire attention à ces produits ultra transformés, c'est pas bon pour la santé. Vous dialoguez avec les gosses,
sûr.
Quoi.
Bien sûr, tout le temps, on essaie de leur faire manger des légumes au maximum. Je fais des ateliers, je leur fais des cakes aux carottes ou à la courgette, des choses comme ça. Leur apprendre aussi à essayer de manger des légumes de saison. Donc c'est pas toujours facile de leur faire manger tout ça. On transforme des lentilles, on fait des galettes, on fait des choses pour que ça puisse leur plaire. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait on est obligé de rentrer dans des codes.
Alors donc, voilà. Les faire enfants, du nugget, des trucs voilà, qui ressemblent à ce qu'ils mangent.
Un burger avec une galette de lentilles, faut faire.
Ouais, mais David, est-ce que c'est grave ça?
Non, parce qu'on a des légumes.
Non, mais même si c'est de la viande, enfin, je suis désolé. À un moment donné, ce qui est grave dans la nourriture des enfants et pas que d'ailleurs, c'est pas les ingrédients comme les légumes, la viande. Ce qui est grave, c'est les produits qui sont issus de la chimie, qui donnent un goût, qui donnent une appétence, qui donnent une addiction. Ces trucs-là, je suis désolé, il faudrait mieux les identifier sur le packaging. C'est tout.
Merci Sabrina et merci David d'avoir discuté avec nous. On a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit interdire la pub sur les produits transformés là? Tous ceux qui m'entourent, si vous regardez RMC Story, bah vous mettez oui quand même. Ah oui, à 64,5%.
Ils vont pas arrêter d'en manger. Ce qu'on devrait vraiment interdire, c'est les pubs forcées. Vous voyez, sur Internet, maintenant, il y a des pubs. Avant, on pouvait
lire un seul article sur Internet.
Et on maintenant. Te met. Moi, j'ai l'impression d'être dans le film où on t'ouvre les yeux pour t'obliger à regarder un truc.
Orange Mécanique.
C'est Orange Mécanique. On est vraiment dans ça. Où tu peux pas zapper. T'es obligé de regarder la pub. C'est scandaleux, ça.
Avec les GG, avec Didier, Fatima et Antoine. On va regarder un peu la politique. Une interview de Marine Le Pen. En cas de qualification du RN au deuxième tour, elle aimerait, Marine Le Pen, affronter le bloc central. Elle dit que ce serait ce qui pourrait le mieux me faire élire. Ben, on va essayer de comprendre son raisonnement et vous venez en discuter avec les grandes gueules au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, la radio RMC Story, la télé Fatima Yves-Bounois et des nôtres, la prof de français avec Antoine Dirce, ce consultant juridique, et puis l'agriculteur de Saône-et-Loire, Didier Giraud. À 11h tout à l'heure, on sera avec Christian, TikToker et YouTuber, plus de 500 000 abonnés, des millions de vues sur le métro. C'est lui qui, avec son téléphone portable, traque les pickpockets dans le métro, donc les pickpockets dans les transports publics. Il les filme, il les interpelle, il montre leur visage, il poste les vidéos, il les asperge même avec du spray odorant, parce qu'il dit c'est pas possible, on ne peut plus aujourd'hui faire avec les pickpockets dans le métro. Moi j'alerte, je suis un lanceur d'alerte, je suis le justicier du métro. Il sera avec nous tout à l'heure à 11h parce que sa méthode pose
et je crois qu'à la base il s'est fait voler lui.
Sa méthode pose peut-être problème. Il nous expliquera pourquoi il fait ça aujourd'hui. Il sera dans les GG tout à l'heure à partir de 11h. En attendant, on va parler un peu de politique, stratégie et hypothèse pour la présidentielle de 2027. Les rêves sont ma réalité. À un an de la présidentielle, Marine Le Pen affirme dans une interview accordée à nos confrères de l'agence France Presse qu'elle aimerait un second tour entre le Bloc central et le Rassemblement national. En fait, elle préférerait affronter Édouard Philippe que Jean-Luc Mélenchon. Face à Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'elle explique, c'est son scénario. Ce qu'elle dit, c'est je serai, si c'est moi qui vais, si la justice me laisse aller à l'élection présidentielle, si les électeurs en décident, je risque d'être l'élection par défaut, par rejet de Jean-Luc Mélenchon. Or moi, je veux un vote d'adhésion. Je veux être élu et c'est pour ça que pour elle, le meilleur adversaire dans le débat d'idées serait Édouard Philippe pour le Bloc central. Si victoire il y a à ce moment-là, elle serait plus légitime. Alors, est-ce que ce scénario pour Marine Le Pen est bon? Est-ce qu'elle a raison de l'évoquer, de l'envisager? 32-16 pour le dire aux grandes gueules. Antoine Dierce, est-ce que tu le suis? Est-ce que tu le comprends?
j'adore la politique depuis que j'ai 15 ans. J'ai vu beaucoup de choses et pour le coup, je comprends pas très bien la sortie de Marine Le Pen sur ce coup-là. On choisit pas son adversaire de second tour, en fait. Et on nous dit jamais, je pense que ça n'est jamais arrivé, je préférerais être face à un tel. Voilà, je suis très étonné par cette sortie. Ensuite, au-delà de la sortie, si on réfléchit sur la stratégie, Marine Le Pen ou le candidat du Rassemblement National serait largement élu face à Jean-Luc Mélenchon. En revanche, est-ce qu'il serait aussi largement élu face à un candidat du Bloc central? Pardon, mais moi j'ai beaucoup de débats avec
ça,
mes amis.
Elle préfère une victoire peut-être
courte,
plus courte.
Mais en fait,
ça peut être une défaite.
Je pense que ça peut être une défaite. Ouais. Je pense que ça peut être une défaite face au Bloc central parce qu'on reverrait.
Donc elle a une stratégie
encore
perdante, c'est ce que tu dis là.
Je suis surpris. Moi, on me dit, t'as le choix entre une victoire facile, large, assurée, ou un combat dont l'issue est incertaine.
Demande à Chirac.
Exactement. Et enfin, je vois peut-être le fond de cette réflexion, c'est la question de la majorité parlementaire derrière. C'est que si la candidate ou le candidat du Rassemblement National était élu face à Jean-Luc Mélenchon, la majorité parlementaire, elle est peut-être plus compliquée avec des effets de vote utile, de barrage, où tout le monde s'allie contre elle. Là où, si elle bat le Bloc central à la présidentielle, là, le Bloc central, c'est souvent des gens légitimistes, des gens implantés qui diraient, elle a gagné face à notre candidat, et donc nous allons donner une majorité à Marine Le Pen. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ce calcul en deux tours, pour avoir une majorité qu'elle préférerait cette configuration.
Fatima Hidbounoua.
Moi, je pense que c'est de la construction d'image, là. C'est plutôt de la construction d'image en deux temps. L'idée justement de la femme politique qui a un projet pour la France et qui veut l'adhésion des Français, donc qui veut une victoire à la loyale, en disant justement, contrairement à ce que tu dis si j'avais le choix entre gagner facilement ou combattre un peu, je choisirais gagner facilement. Non, si le raisonnement c'est gagner facilement mais être considéré comme illégitime ou me battre un peu et avoir l'adhésion et la légitimité, autant c'est un peu la phrase à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc elle veut la gloire de la victoire et la légitimité de la victoire, sachant qu'elle sait très bien qu'il y aura de la contestation après, donc elle veut pas rajouter ça. Donc je pense que c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est un tacle contre Jean-Luc Mélenchon pour le désigner lui comme étant le diable maintenant. C'est-à-dire que dans la diabolisation, avant on disait quand on votait contre le FN, tout sauf le FN. Maintenant elle dit qu'en France c'est tout sauf Mélenchon. Donc en le désignant lui comme étant le tout sauf Mélenchon, c'est pour dire ce n'est plus nous. Donc je pense que ce n'est pas une vraie hypothèse, c'est surtout une construction d'image qui est plutôt bien jouée. Enfin, je pense que c'est pas mal de le formuler comme ça, si on pense sur du long terme. Parce qu'elle sait très bien que c'est là la présidentielle, on peut pas, comment dire.
Elle sera le début juillet, si elle est candidate ou pas.
Ils ont commencé la campagne, mais
fourche codine judiciaire à passer d'abord.
L'actualité, les faits divers, tout ça, ça va tellement influencer le vote des Français que les votes peuvent changer au dernier moment. Donc ça va être très dur de faire des prédictions parce qu'on est dans des nuées maintenant. On n'est plus dans des adhésions de fond. L'opinion publique, elle change comme ça. Elle vient, elle change. Donc
souviens-toi, parce que tout à l'heure tu évoquais de 2002 Didier Giraud. En 2002, Jacques Chirac est élu face à Jean-Marie Le Pen avec 80% des voix derrière. Et c'est là, et ça a été son problème d'ailleurs, parce que derrière, qu'est-ce qu'il a fait de
c'était un deuxième mandat.
Il a rien fait de différent des présidents de la 5e qui ont fait deux mandats. 80% des Français qui disent écoutez, on compte sur vous, sinon on aurait eu le Rassemblement National, il aurait pu faire un gouvernement d'union nationale, il aurait pu prendre des mesures, il avait la France derrière lui, il y avait eu des manifestations,
etc.
Mais
c'est pas dit que ça soit comme ça.
Il n'a rien fait. Donc je pense que le calcul de Marine Le Pen, c'est celui-là, dire face à l'épouvantail Mélenchon, si je suis élu, je vais être élu par rejet. Moi, ce que je veux, c'est une adhésion.
Nous dire que c'est lui l'épouvantail et que c'est pas elle. C'est-à-dire inverser la vision, et ça, c'est de la stratégie politique, quoi, la manipulation mentale.
Didier Giraud.
Écoute, j'ai une petite préface à ma réponse.
Alors, attention, préface. C'est l'introduction.
Je pense que, avec toute leur, à un an de l'élection, toutes leurs petites phrases, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, qui commencent par 5-6, je pense que ça va faire de moi un abstentionniste pour la première fois de ma vie, quoi. Parce que j'en peux plus de leurs hypothèses qui commencent par si, elle sait même pas si elle va pouvoir se présenter. Donc le billard à 5 bandes, on oublie, et puis on jouera au billard à 5 bandes quand on sera dans la campagne à 3 mois de l'élection. Parce que là, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et moi, je pense comme Antoine que se retrouver face au bloc central plutôt qu'en face Mélenchon, c'est plutôt un truc pour elle qui l'emmènera à la défaite.
Réfléchir ce qu'elle dit en creux, c'est-à-dire si je perds, je veux perdre, je préfère perdre avec les honneurs, quoi, finalement.
Mais j'en sais rien ce qu'elle veut dire, mais tant qu'elle sait pas si elle peut se présenter, qu'elle se taise, quoi. Voilà. Moi, j'en ai marre des petites phrases sur la campagne présidentielle qui sera dans un an, quoi. On verra où on sera le pays à ce moment-là, on verra où sont les forces en présence, on verra qui émerge, parce que je pense que celui qui gagnera, on le connaît pas encore.
C'est ça. Voilà. Et ça peut même être quelqu'un de nouveau.
Et leurs 73 candidatures à droite, 73 candidatures à gauche, avec tout le monde qui se réveille dans les cimetières du socialisme pour dire moi aussi, monsieur, je veux y aller. À un moment donné, ça va, mais je te promets, ça va dégoûter les gens. On va avoir un taux d'abstention record. Je te l'annonce.
Ou alors les mobiliser pour un vrai.
Ou alors ils vont faire un raz-de-marée pour l'anti-système.
Anti-système, ouais. Voilà, en se disant, écoutez.
Tu crois au candidat anti-système?
Non, j'en sais rien.
C'est le RN qui était avant le candidat et le parti anti-système. La France. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, il est là.
Ils sont quand même bien dans le système. Ouais.
La France est un cœur à prendre. Ça veut dire, là, c'est comme une femme qui sort vraiment d'une relation.
Les gens qui se demandent comment. J'ai vu quelqu'un avant-hier qui mettait 20 euros de gasoil, quoi. Je pense que la petite phrase de Marine Le Pen sur qui il y aura en face d'elle au deuxième tour, je pense que ça va les exécuter.
C'est comme une femme qui a une relation, ou un homme, qui a eu une relation avec quelqu'un qui était un pervers narcissique, qui en peut plus, qui croit plus du tout en l'amour et qui se dit, moi, j'aimerais plus personne. Si en face, effectivement, on a quelqu'un qui est authentique, qui dit je suis au service des Français, et on sent, de toute façon ça sent quand quelqu'un est autant
d'où le raz-de-marée pour le dernier président
là, ça peut prendre, ça peut donner envie d'aller,
on a
d'aller voter.
Grégoire avec nous au 32-16, bonjour Grégoire.
Bonjour les GG, comment ça va?
Ça va Grégoire. Grégoire, je le rappelle, qui est commercial du côté du Nord à Tourcoing, qu'est-ce que vous en dites de cette hypothèse avancée par Marine Le Pen? Alors dites-moi.
Écoutez, moi je suis pas du tout d'accord avec elle, je la trouve un peu à côté de la plaque sur ce coup-là. Je pense que si elle tombe contre le bloc central, pour moi c'est perdu d'avance. Tout le monde va s'allier contre elle. De toute façon, si elle veut avoir des chances, il faut envoyer Jordan Bardella. Je pense que elle est grillée.
Je n'ai pas envie de gagner.
Et de toute façon, ce sera Rassemblement National contre le reste du monde, hein, pour reprendre l'expression. Donc pour moi, aucune chance pour Marine Le Pen face au bloc central.
Mais vous savez, Grégoire, quand on s'interrogeait sur ce que vous voulez dire précisément Marine Le Pen, moi, je pense que ce qu'il faut lire, c'est je n'ai pas envie de gagner face à Mélenchon. Je préfère perdre face au bloc central avec les honneurs. Moi, je pense que c'est ça que ça veut dire.
Non, non.
Vous voyez,
qu'elle veut faire passer.
Elle a pas envie d'être le diable qui gagne face à l'autre diable. Elle préfère perdre de manière légitime une nouvelle fois contre le bloc central.
Si c'est RN contre LFI, ça
la
sera pas le truc de diable, de Front Républicain. Ça ne sera plus valable.
Moi, je suis pas sûr que ça soit Le Pen Mélenchon.
Il y aura autre chose. Et je vous dis, même si on imagine, si vous faites les hypothèses comme ça, LFI, RN, comme ça au deuxième tour, ce qui va se passer, c'est que très vite, ça va être considéré comme la nouvelle droite, la nouvelle gauche, et ils vont être chacun. Le LFI va être dépassé par son extrême, et le RN va être dépassé par son extrême, sur le terrain. Ça vous paraît fou, mais il y a quelques années, j'étais là avec
Olivier Cruchot. Et les ralliements du centre feront que.
J'avais dit que il m'avait dit Mélenchon, ça va disparaître là. J'ai dit non, je pense pas. Je pense que ça va rester. Il m'avait dit Marine Le Pen, elle est foutue. Vous disiez tout ça juste après la présidentielle, là, quand elle avait raté son
débat.
Je vous avais dit non, pas du tout. Donc là, ce que je vous dis, c'est que les deux, s'ils arrivent. Il y aura pas de front républicain contre l'un ou contre l'autre. L'autre, il y aura un débat. Voilà.
Merci à Grégoire. Discussion à reprendre, bien sûr. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va entamer la troisième heure. Ah oui, la petite consultation Marine Le Pen qui va affronter le bloc central, crédible ou pas. Qu'est-ce que vous en avez dit sur les réseaux sociaux? Hypothèse crédible? Oui, bien sûr.
Tout est possible.
80%. Donc, dans un instant, avec les GG, la troisième heure, les fermetures de classes dans les petites communes, dans les petites villes.
Lille, est-ce que c'est inéluctable? Les erreurs médicales, visiblement, à l'hôpital, on ne les déclare pas toutes. Et puis, le TikToker justicier du métro, notre invité, dans 5 minutes.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.